Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Club. Go. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, 116 avenue du Président Kennedy, 6e étage, studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. C'est la bonne adresse pour votre rendez-vous quotidien et en live avec toute la scène française. Ce soir, Gérard Manset est notre invité en solitaire. Bonsoir Gérard Manset.
Bonsoir.
24e album, L'Algue Bleue, c'est le titre. 9 chansons placées sous le signe d'une double pochette. Portrait de femme, à moins que ce ne soit un robot, et piano à queue sur paysage aux allures lunaires, puisque si on en croit la chanson, sur la lune, on danse. Et nous aurons en ligne Jacques... Oui,
Gérard. Pardon, oui, je me permets d'intervenir. Portrait de divinité.
Ah, sur la couverture.
Voilà.
Très bien. On en saura un peu plus dans quelques instants.
Lunaire, stratosphérique.
Et nous aurons en ligne Jacques Erard, votre ingénieur du son. Par ailleurs, le réalisateur de Camille, de Bébé Brune, d'Henri Salvador. C'est Marion Guilbeault qui l'a appelé. C'est votre collaborateur en studio du plus près de 30 ans. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec votre premier choix dans la playlist France Inter. On vous a communiqué les titres et vous avez choisi notamment Zao de Sagazan. Pour quelle raison, Gérard Manset ?
Alors, je ne connaissais pas, mais j'en avais entendu beaucoup parler. Je ne l'ai jamais entendu. Là, comme il y avait la playlist, j'en ai écouté la moitié d'un titre. J'ai trouvé ça très bien. Très jolie voix, bien placée, compréhensible. Bon, elle avait beaucoup, beaucoup... presse dithyrambique. Hein.
Oui.
Pour le reste, je vous demanderai de ne pas trop me poser de questions sur la playlist en question, vu que je ne connais personne.
C'est parfait.
J'ai mis mon doigt sur 2-3 trucs qui me semblaient intéressants. Il y en a probablement, mais j'écoute absolument jamais de musique. Enfin, quoique maintenant, j'en écoute pas mal, parce que il m'arrive quelquefois de me faire des sortes de siestes, des semi-siestes. Alors, j'ai un vieux poste qui vient du Vietnam, qui est un baby, je ne sais, baby 50, je crois, qui est jaune.
Oui.
Et qui doit être à galène, alors je fais tourner le bouton et alors je survole des tas de fréquences qui quelquefois se superposent, se chevauchent, s'entrecroisent et tout ça est merveilleux parce qu'il y a un son des années 70 et de temps en temps j'entends des trucs miraculeux. C'est surtout de la musique américaine qui m'intéresse. Genre, en général, ce qui est de français, on ne comprend pas un mot, enfin, c'est des sortes de borborygme souvent, et alors quelquefois il y a un texte qu'on comprend, qui est intelligible. Bon.
Et c'est le cas de Zao de Sagazan, tout voilà. De suite, sur France Inter.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour. L'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir, oh je rêve. Je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve que tu es là avec moi. Je rêve, oh oui, je rêve. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie. Tu resteras, mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, ah, je rêve, ah oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer ton devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire. Pour de la mort n'empêche pas de rêver. Alors je referme les yeux et je rêve. Je rêve, je rêve. Je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, mais tu n'es pas. Non, tu n'es pas, pas vraiment là. Je rêve.
Zao de Sagazan, c'est le premier choix playlist de Gérard Manset, notre invité qui dessine pendant l'écoute. C'est un exercice mental.
J'interviens parce que là, je l'ai entendu en entier, c'est absolument magnifique. Ah non, non, ça c'est remarquable, donc il faut souligner. On se demande même comment on peut faire autre chose que ça. Donc voilà, ça s'appelle le talent, et puis surtout, elle a un timbre de voix, bien sûr, mais elle a aussi le phrasé. Elle est auteur-compositeur, je crois.
Interprète, tout.
Voilà, c'est tout. Il faut faire ça, c'est absolument remarquable.
Récompensée de 4 victoires de la musique cette année.
Bon, voilà, d'accord.
Voilà, vous voyez un petit peu le genre.
Ben oui, mais non, ben c'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'on pourrait presque imaginer que c'est un peu marginal, enfin, c'est pas du tout dans le mood d'aujourd'hui, c'est trop élégant, bon, enfin, voilà.
Mais comme quoi la singularité paye, parfois.
Oui, alors on ne sait pas, il y a peut-être une configuration d'étoiles qui se sont mises dans le bon sens pour elle à ce moment-là, peut-être 6 mois avant ou 6 mois après, elle n'aurait peut-être pas eu ce profil-là, mais enfin, de toute manière, là, voilà, c'est merveilleux, ça donne les larmes aux yeux, c'est parfait.
Pour autant, vous dessinez pendant ce temps-là, c'est un exercice mental.
J'ai toujours dessiné.
Je sais, vous avez toujours dessiné, vous avez même peint, vous continuez certainement, j'imagine. Et vous faites ce qu'on appelle des perruques.
Ah, ça s'appelle des perruques, je sais.
Ce que
pas.
Vous faites, oui, c'est-à-dire quand on dessine, par exemple, quand on est au téléphone, oui, oui. Ou quand on dessine pendant qu'on parle à quelqu'un, ça s'appelle des perruques, ce que l'on fait.
Eh ben voilà, très bien.
Une perruque d'ordre abstraite, manifestement.
Bon, pas vraiment, enfin oui, non, comment je pourrais dire, cartésienne. N'était carré ou un chemin sur le papier.
Aujourd'hui donc, 24e album, L'Algue Bleue, ça sortira en fin de semaine. C'est aussi le titre d'une chanson qui arrive en 3e position sur l'album. Comment ce nom s'impose? Comment on choisit un titre Gérard Manset, vous qui par ailleurs êtes écrivain?
Alors je pouvais pas l'appeler comment tu t'appelles, quel titre là qu'ils ont sorti en premier, sur lequel il y a un clip, je pouvais pas l'appeler Sur la Lune on danse. Moi j'aurais préféré l'appeler Sur la Lune on danse.
C'est pas mal Sur la Lune on danse, ça marchait aussi.
Oui, oui, mais enfin... Non, mais ça marchait aussi, hein. Je me suis interrogé. Bon, passons. Enfin, après, les autres titres n'étaient pas vraiment...
La mélancolie, c'est pas possible.
Non, et puis alors, L'Algue Bleue m'a semblé peut-être plus...
Énigmatique ?
Plus neutre.
Plus neutre ?
Oui. Plus neutre. Non, mais la chanson, j'aime beaucoup la chanson.
On va l'écouter dans quelques instants.
Bah, plus neutre. Non, alors j'avais un autre titre très beau, mais qui sortira plus tard, qui s'appelait Le Cèdre Bleu. Et donc, j'allais pas mettre les deux. Donc, j'ai finalement laissé Le Cèdre de côté pour mettre L'Algue.
Ça veut dire que vous avez un album en préparation, de nouvelles chansons?
Il y en a toujours.
Toujours, ça je peux l'imaginer. On va entrer directement dans ce nouvel album. 9 titres, 9 nouveaux titres. 7 d'entre eux durent entre 5 et plus de 8 minutes. Et il y en a 2. En ouverture et fermeture, qui ont un format, on va dire, plus radio. Et ce n'est pas étonnant, car la première chanson, vous l'avez écrite à l'âge de 19 ans, comment tu t'appelles ?
ton nom, dis-moi ce soir où tu dors. Et pourquoi tu te tais toujours? De quoi t'as peur en voyant se lever le jour? Qu'est-ce que tu fuis, dis-moi, qu'est-ce que t'oublies? La solitude, la vraie, la liberté, la seule dont on ne dit rien à personne. Quand y a rien à dire, qui te tient chaud la nuit quand l'amour se tire. Jamais perdu, jamais laissé. Comment tu t'appelles? 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 Comment
Comment tu t'appelles, signé Gérard Manset, une chanson écrite à l'âge de 19 ans, ça veut dire que vous gardez tout et que vous réécoutez?
Oui, j'ai beaucoup de cassettes, mais enfin, de temps en temps, oui, j'en réécoutais quelques-unes. Celle-là, elle était totalement passée à travers les mailles du filet. Bon, je savais même pas que ça pouvait exister encore.
C'est vrai. Vous avez été surpris en la réécoutant?
Oui, 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 j'ai été
surpris. Agréablement, manifestement.
Ben, oui, parce que c'est la veine juvénile d'un truc limpide, tout simple, évident, qu'on ne fait qu'à 20 ans, ou à 30, ou à 35, mais qu'on ne fait plus après. Donc j'ai plus cette inspiration-là. Quoi.
Vous n'avez plus cette évidence par la suite?
Oui, c'est ça, oui.
Donc il y a une certaine nostalgie par rapport à cette période?
Oh non, il n'y a pas de nostalgie, il y a un constat, non, non, voilà, c'est comme c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté, qui a frappé à la porte. Gérard, entre. Entre ici,
Gérard. Entre ici, Gérard. À 19 ans, mais qui étiez-vous? Quelle place avait la musique, alors même que vous écriviez,
aucune.
Que vous peignez, c'est ça, oui?
Non, aucune, je connaissais, j'écoutais de la musique classique beaucoup, j'ai bricolé très vite... en jouant un peu de guitare, un peu de batterie, avec un petit groupe qu'on avait 15 ou 16 ans, avec un ami avec lequel je ferai un studio ensuite. Mais vraiment, j'étais d'une médiocrité, voilà. Non, non, je...
Vous vous destiniez véritablement à la peinture. Je rappelle qu'à 20 ans, vous êtes lauréat du concours général en dessin, que vous allez entrer à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, que vous allez exposer très rapidement. Donc la musique n'était pas du tout le plan A au départ.
Non. Non, non.
Comment vous avez travaillé la musique seule de votre côté, en autodidacte? Parce que quand même, quand on écoute La Mort d'Orient en 70, il y avait une vraie ambition musicale, une écriture savante pour un des premiers albums concept.
C'est vrai, alors, pareil, c'est une longue histoire, comment la résumer en deux, trois phrases. Un jour, j'avais un piano vacant, on va dire, un Pleyel droit qui est magnifique, que j'ai toujours d'ailleurs. Puis il y avait une méthode rose, alors j'ai fait un peu de méthode rose, et puis en quelques jours, je me suis mis à vouloir étudier. Je venais de zéro.
Pointé.
Pointé, même renvoyé de Claude Bernard, je crois même à cause de la musique, un jour, je ne sais pas, en tout cas, de zéro absolument pointé en musique. Et puis en 8 jours, j'ai appris tout le solfège, les clés, les gammes, les machins, et j'ai voulu commencer à déchiffrer tout seul. Donc je me suis mis sur Bach, la toccata et ré mineur, et je me souviens qu'en un mois ou deux, je jouais péniblement, hein, avec peut-être des ratés, mais j'arrivais à ces accords majestueux du milieu, où il y a 10 doigts de poser sur le clavier, et j'étais émerveillé qu'on puisse avoir de telles harmonies, je commençais à voir l'architecture du truc. Et donc voilà, ça m'a amené à écrire pour tout le monde, et au premier album, La Mort d'Orion, oui, à diriger, enfin à avoir une trentaine de musiciens de l'opéra, voilà.
Je me permets de vous corriger, parce que le premier album, justement, ce n'était pas La Mort d'Orion, c'était un album de chansons. Est-ce que La Mort d'Orion vous permettait justement de corriger le tir et de donner une autre dimension, alors même que le premier album, c'était un album, on va dire, traditionnel de chansons?
C'est vrai, mais je m'étais quand même un petit peu fait la main, parce que c'est un album que j'ai réfuté, que je n'ai jamais voulu ressortir, mais dedans, il y avait un titre qui s'appelait par exemple L'une et l'autre, où il y avait des écritures de cordes très belles, il y avait La Femme Fusée, où j'avais une vingtaine de musiciens aussi. Non, non, j'étais parti dans des, voilà, dans des terrains... à défricher, terrible. Et bon, je me suis fait un peu la main avant La Mort d'Orion. Oui.
Juste une question par rapport à ce premier album. C'était en 68. En 68, vous étiez concerné par la vie politique du pays?
Écoutez, c'est un sujet qu'on va éviter parce que le... Non, j'étais concerné par le Vietnam, par la guerre du Vietnam. Il y a eu très vite les pourparlers à côté, qui étaient à l'étoile, qui était à l'hôtel Raphaël. Mais non, j'étais tourné vers les lointains, vers les voyages.
Déjà
les... Oui. Je ne pouvais pas encore partir parce qu'il y avait le studio de Milan là, qui m'a accaparé pendant 6 ou 7 ans. Mais non, c'était l'époque Pompidou, alors c'était charmant. Encore, si vous voulez parler de politique, on peut dire que c'était une politique qui n'était pas du tout politicienne, puisqu'il n'y avait pas de médias sans arrêt à tout fouiller à la seconde près, à répercuter tout, à le démultiplier. Donc oui, c'était assez charmant. On a appelé ça après les 30 Glorieuses, il y a des raisons que...
Que ça s'appelle comme ça. L'Algue Bleue, c'est votre nouvel album. On va écouter la chanson qui lui donne son nom.
Dans le fond de
L'algue bleue, extrait de ce nouvel album de Gérard Manset. Quelle est sa caractéristique à cette algue bleue, une spécialité brésilienne ?
Pas du tout. Ah, de l'algue en question, pas du titre. Non, parce que là, j'étais quand même impressionné. Là, je ne l'ai pas réentendu depuis un bout de temps.
Ouais.
Je comprends que ça puisse faire peur aussi. Mais
pourquoi peur ?
Parce que ça peut désarçonner, parce qu'on a la voix est sauvage. Je sais pas, ça peut.
C'est pas le seul titre.
C'est comme tout à l'heure, la Zao, je sais pas quoi.
Zao de Sagazan.
C'est très déstabilisant par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui de comment je pourrais dire, de
formaté.
C'est pas le mot formaté. Je l'expliquais sur le plan technique depuis l'album où j'avais 4 titres avec Bachung, le dernier, Bleu Pétrole.
Ouais.
Que j'avais été surpris, surpris moyennement, mais de voir à quel point un titre comme un Lego, par exemple, mais les autres, rien ne bougeait. Les potards, ce qu'on appelle les potentiomètres d'une console, là, toutes les pistes séparées, c'est une fois pour toutes, on les met quelque part et rien ne bouge. Alors moi, je suis d'une époque où on bougeait les potards, ça vivait. Il y a des choses qui entrent, des choses qui sortent. Et les gens ne sont plus habitués à ça. Ça déroute. Bon, voilà, donc on est dans un monde où tout est plat parce qu'on ne le bouge pas, parce qu'on se méfie des mouvements, quoi.
Quand vous dites une voix sauvage, vous faites référence à quoi ? Ça vous permet de dire quoi, ce terme sauvage, en parlant de votre voix ?
Je sais pas, je l'entends, là, je l'entends dans mon casque, j'ai pas de... Même quand je chante en studio, bien sûr, ou quand je fais tous mes... Je suis tout le temps avec, mais je veux dire, là, à froid, là, je monte faire une émission, j'entends ma voix parmi d'autres choses.
Et vous êtes impressionné ?
Je suis impressionné, oui. Oui, je comprends. Souvent, on me parle d'étrangeté. On m'a toujours souligné que ma voix était très particulière. Je veux bien le croire.
Cette voix, vous l'avez aimée dès le départ ?
Ben, elle était beaucoup plus juvénile, elle était pleine d'harmoniques. Là, les harmoniques sont parties, c'est pour ça qu'il y a ce côté sauvage. À l'époque de Matrice ou de Lumière, elle n'était pas sauvage, elle était étrangère, mais elle n'était pas sauvage.
Vous signez paroles, musique, enregistrement, mixage, vous êtes vraiment à toutes les places, ça ne date pas d'hier. Est-ce que pour vous c'est un impératif catégorique, une incapacité à déléguer, ou est-ce que vous avez eu de mauvaises expériences par le passé, Gérard Manset ?
Ben, les mauvaises expériences, j'en ai vues chez les autres, et d'ailleurs chez d'autres que j'ai produits à l'époque, il y a très longtemps, mais moi j'ai fait très peu d'expériences parce qu'elles s'arrêtaient tout de suite. Et puis non, je connais trop les habitudes de ce métier où les gens n'écoutent pas, c'est même pas qu'ils ont des a priori, mais puis c'est un autre métier. L'auteur-compositeur, il est concerné, c'est le nombril de ce qu'il fait. Donc quand on peut se permettre de tout faire, c'est beaucoup mieux. Je rappelle souvent l'anecdote, là, comment il s'appelait, là, qui est décédé récemment, là, qui vivait dans le Cantal.
Jean-Louis Murat,
qui avait beaucoup de talent d'auteur-compositeur, il avait pris la mouche il y a très longtemps, parce qu'au tout début, on m'avait demandé de le produire. Et j'avais eu le tort, peut-être, dans ma franchise naturelle et enfantine, de lui dire, t'as pas besoin de producteur, si moi je te produis, je vais dire, faut faire ci, faut faire ça, faut couper ça, faut machin. Non, arrange-toi, fais tout seul. Bon, il l'avait mal pris, mais c'est ça, l'auteur-compositeur, il doit tout faire tout seul. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi beaucoup d'auteurs-compositeurs ont délégué à Pierre-Paul Jacques. À une époque, ça peut être plus compréhensible pour des gens comme Jacques Brel ou d'autres, parce qu'il y avait des arrangeurs extraordinaires, des orchestrateurs. Moi, j'en ai connu quelques-uns au tout début, quand j'avais 18 ou 20 ans. C'était prodigieux. C'était vraiment des chefs d'orchestre excessivement talentueux qui transformaient une chanson quelconque, comme celle de Jean Ferrat souvent, qui la transformait en faisant quelque chose de magnifique.
Même chez Gainsbourg, d'ailleurs. Gainsbourg avait des arrangeurs excellents aussi.
Oui, enfin, au mieux, pas trop me parler de Gainsbourg.
D'accord.
Mais surtout que c'était 15 ans plus tard. Donc,
oui.
On était déjà un peu dans la pop, brillantinée, exacerbée, enfin, qui voulait montrer quelque chose qu'il n'était pas. Bon, pas que lui, hein, mais... Non, la grande époque de ces arrangeurs, c'était Jean-Claude Petit avec Julien Clerc, les 5 premiers albums de Julien Clerc. Il y en a eu beaucoup.
Une question par rapport à ce nouvel album, il n'y aura pas de concert, ça non plus, ça ne date pas d'hier, vous êtes toujours tenu à l'écart de la scène, on ne va pas y revenir, vous êtes beaucoup exprimé là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il y a eu, à un moment donné, un espoir avec l'album Obok. Je crois que vous aviez composé des titres pour la scène, à cette époque-là, des titres taillés pour le concert, c'était en 2006, et vous y avez renoncé. Mais si vous aviez composé Obok pour la scène. Cela signifie que vos autres chansons seraient des défis pour les concerts, pour les musiciens en live ?
Non, mais ils l'étaient. Toutes ces autres chansons, tous ces autres titres étaient des défis. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que par exemple, un titre comme « Demain, il fera nuit », c'est un titre que j'adore, qui était, je ne sais plus sur quel album, peut-être « Le langage oublié ». Bon, ben, « Demain, il fera nuit », alors qu'il y a très peu d'accords, il y a des renversements différents, mais on ne peut pas le refaire, enfin, c'est compliqué. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Sur l'album précédent, il y avait Marilou, Marilou. Il fait quand même 15 minutes. Bon, les musiciens ne s'y retrouvent plus. Il y a un moment où ils se paument, il y a des changements de tonalité. Il y a quelquefois une mesure en plus, une mesure en moins. Bon, tout ça, ça peut se rectifier en cas de tournée. Et puis maintenant, j'ai tellement de titres que je pourrais en choisir une vingtaine où il n'y a pas de problème particulier. Là, l'algue bleue qu'on vient d'entendre, là, ça ne pose aucun problème, bien sûr.
Et pour autant, vous vous tenez encore à l'écart de la scène. Jamais vous n'êtes tenté.
Je l'ai toujours été tenté. Hein. Mais pour faire vite, dans les années 80 ou 70, on était environné de Dalida et de Claude François, donc on n'avait pas envie de faire de scène.
Oui, mais depuis, les temps ont changé,
après, les sonos, elles étaient ce qu'elles étaient. Moi, je n'ai jamais eu de mémoire particulière, parce que je ne sais pas quoi, j'avais pas envie de me montrer. Hein. J'ai salué des gens comme Bachung, bien sûr, mais surtout... comment il s'appelait, qui sortait des albums systématiquement à peu près, auteur-compositeur aussi, là. Le nom m'échappe, là. Champagne et...
Ah, Jacques Higelin.
Jacques Higelin, bon. Ces gens-là sont nés pour la scène. Il faut tout le temps qu'ils soient sur scène. Moi, j'étais totalement réfractaire à ça. C'est pas mon monde. Je n'ai pas besoin de voir un public. Donc voilà, j'ai reculé, mais j'ai toujours regretté. Non, j'adore ça. Quand je suis en studio et que je chante, j'adore ça.
Si vous n'avez pas chanté en concert, d'autres l'ont fait pour vous. Raphaël notamment, qui a repris votre répertoire sur l'album Soleil des Latitudes en 2015. Raphaël, qui est managé par Caroline Mancé, votre fille. Raphaël, c'est votre autre choix dans la playlist France Inter. Je me suis demandé si vous aviez vu son dernier spectacle, mis en scène par Guillaume Vincent, un spectacle théâtralisé. Vous l'avez vu ?
Non, j'en ai évidemment entendu parler. Je savais qu'il amenait des choses sur scène, il les retirait. Enfin bon, j'ai pas vu. Ben, je vais jamais voir de spectacle. Donc pas plus le sien, mais tant mieux. Je lui souhaite tout le bonheur du monde avec tous les spectacles du monde.
Tout de suite, Raphaël, fait des heures sup sur France Inter.
De serre, qualité de l'air dégradé, serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Se sent à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux. C'est la nuit, qualité de sommeil dégradée.
Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer. Pour de bon lance-fleurs, moi, moi.
Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour.
Gérard Mancé, notre invité côté club ce soir. Gérard Mancé, vous avez travaillé ce nouvel album avec votre ingénieur du son depuis près de 30 ans, Jacques Erard. Marion Guilbault l'a joint au téléphone pour en savoir un peu plus sur l'homme de studio que vous êtes.
Bonsoir Jacques Erard.
Bonsoir Marion.
Vous avez travaillé sur le nouvel album de Gérard Mancé, L'Algue Bleue. Ce n'est pas votre première collaboration avec lui. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? C'était à quelle occasion?
Ah bah bien sûr, comment l'oublier? Je travaillais dans les studios Pathé, qui était l'équivalent d'Aberode à Paris, puisque EMI avait des studios dans le monde entier, dans celui-là. Et j'étais assistant, et l'ingénieur du son qui travaillait avec Gérard en avait peut-être un peu marre, je sais plus, ou avait autre chose à faire, et donc il m'a mis sur la séance. Et c'était assez drôle, parce que ça s'est très mal passé. Puis finalement, ça a continué pendant presque 30 ans, quoi.
C'était quel album? C'était en quelle année, cette première séance avec lui?
C'était Matrice, c'était en 89, je crois, dans ces eaux-là.
Et qu'est-ce qui s'était mal passé? Vous vous souvenez?
C'est un détail, c'est un peu technique, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais à l'époque, on avait l'habitude que les musiciens répètent avant de faire la prise en studio.
Oui.
Et donc, Gérard descend pour enregistrer un titre magnifique d'abord qui s'appelle « Comme Ludion ». Je ne savais pas ce qu'était un Ludion à l'époque d'ailleurs. Et donc, il descend avec sa guitare, il enregistre et il fait la guitare. Et moi, j'avais l'habitude que les musiciens répètent pour être sûr qu'ils sont bien dans le casque, etc. Et donc, il joue le morceau, puis je me retourne et je lui demande « Donc, c'est bien, on peut enregistrer ?» Et lui, il saute au plafond, il dit « Comment ça, t'as pas enregistré ?»
Ça commençait bien.
Ça commençait très bien. Et donc après, j'ai enregistré, j'ai demandé ce que c'était qu'un Ludion. Et puis après, ça continue. J'ai dû faire encore 2-3 conneries à l'occasion, parce que j'étais un peu vert encore à l'époque. Mais avec Gérard, on apprend très vite, parce qu'il a une méthode de travail qui est complètement hétérodoxe. Il ne fait pas trop les choses dans l'ordre, plus ou moins, ou s'il faut revenir complètement sur quelque chose. C'est un peu comme... le Picasso dans le film qui commence par une poule et qui finit par un portrait, ou le contraire, je sais plus, là, c'est le film de Clouzot, hein, je crois. Mm. Non, mais c'est ça, faut s'adapter, refaire des choses qu'on a déjà faites, reconfigurer parfois les machines. À l'époque, on était encore sur de la bande et tout ça. Enfin, on apprend très vite, ouais.
Il est collaboratif, il est directif?
À la fois très directif, il sait ce qu'il veut pas, il entend tout de suite quand c'est bien. C'est pas non plus la patience incarnée, mais ça va. Et c'est plutôt, c'est assez impossible. Enfin, moi, dès le début, ça m'avait fasciné, quoi, dès les premières séances. Enfin, je me souviens de la séance de Revivre, par exemple, ou des choses comme ça, où c'était assez magique.
On voudrait revivre.
Tout en restant très concentré sur la technique, parce que sinon, ça va pas.
Mais ça veut dire, on voudrait vivre encore. La même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours. Toucher du doigt le point de non-retour. Et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra
Qu'est-ce que vous avez appris en travaillant à ses côtés?
J'ai appris à tout faire, oui. Enfin, déjà enregistrer tout le temps, enregistrer vite. Donc, il ne faut pas du tout que la technique soit une gêne. Et donc ça, j'ai appris à l'époque très vite. En plus, il y a une petite tendance, il fait partie de ces gens qui suscitent des pannes.
Ah bon? Quel genre de panne, par exemple, sur l'enregistrement de l'Algue Bleue?
Non, il n'y en a pas eu.
Ah,
ou
pas
très
celui-là.
Peu, je crois. Il y a des trucs bizarres. Non, mais par exemple, une fois, on était à une terrasse de café, il y a un type qui le reconnaît, qui sort de chez le réparateur de l'appareil photo, et qui demande s'il peut prendre une photo. Bien sûr, Gérard dit non. Gérard lui propose que lui prenne la photo, comme ça, ce sera quand même une photo de Gérard Manset. Il est prise par Gérard Manset. Et donc, il appuie sur l'appareil, rien ne se passe. Le type sortait du réparateur et avait vérifié que l'appareil marchait. Donc, ça peut arriver comme ça, quand on lui confie quelque chose, ça ne marche pas. La technique.
Quelle direction musicale Gérard Manset avait en tête pour l'Algue Bleue?
C'était plutôt l'idée de faire des choses assez live. C'est vraiment dans la continuité du précédent. Hein. Les albums comme ça vont souvent deux par deux. Par exemple, Matrice et Revivre, c'est oui. Le même album.
Tout est recyclé.
Pas recyclé, retravailler toutes les matières potentielles à faire autre chose. Non, c'est vraiment comme un peintre qui décide tout d'un coup que là, c'est pas du bleu, c'est du orange et qui repasse par-dessus, quoi. Du reste, Gérard est plutôt peintre.
Vous avez une chanson préférée, Jacques Erhardt, sur cet album, L'Algue Bleue?
Sur l'extraterrestre, là, Toujours Elle, non, ça s'appelle? Je crois, ouais, qui est assez dingue, ouais.
Elle est dingue pourquoi?
Pour le thème, la façon d'exprimer. J'ai pas compris tout de suite de quoi ça parlait. C'est un jour, il l'a dit, et j'ai compris, et ça m'a semblé assez extraordinaire. Moi, ça fait 30 ans que je vis avec lui, donc je sais plus trop. Tout est pareil et tout est tellement ailleurs et formidable d'une certaine façon. Oui, j'en sais, je vais pas non plus exprimer trop mon admiration, surtout s'il l'entend.
Merci beaucoup, Jacques Erhardt.
Merci à vous.
Pour tous ces éclaircissements sur le travail en studio avec Gérard Manset et à très bientôt dans Côté Club.
Gérard Manset, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, une réaction par rapport à ce qui a pu être dit?
Je dois saluer, évidemment qu'on se renvoie des fleurs, mais moi je suis émerveillé. Je disais tout à l'heure où j'ai travaillé seul, souvent on me dit « t'as pas de collaborateur », vous me disiez tout à l'heure « alors il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de... » Eh bien il n'y a rien, sauf que j'ai cette chance d'avoir quelqu'un de très intelligent, de très sensible... Parce que comment il s'est exprimé là-dessus, j'en aurais pas dit le quart. Et c'est tellement vrai. Tout ce qu'il a dit est parfait. Bon, voilà, c'est tout. Je l'embrasse à distance.
Vous créez des pannes? C'est quoi cette histoire?
Ah non, il y en a eu très souvent. Oui, tous les studios tombaient en rade. Mais je savais plus ou moins pourquoi, je le prévoyais. Ben, je sais pas, ça s'est un peu passé. Mais il y a eu 20 ans de numérique catastrophique. Il aurait pas fallu me mettre à la NASA pour envoyer des trucs. Non.
Pour envoyer des trucs dans la Lune.
Voilà.
En tout cas, écrire une chanson sur la Lune, c'est possible. Il parle d'une méthode hétérodoxe. En tout cas, il y a une méthode. Vous aviez donc une méthode, quand même, d'enregistrement?
Vous savez, c'est la méthode classique d'origine. On met un Neumann où il faut, on pousse les trois potards de la console, on regarde que ça ne torde pas. Avant, on avait c'était l'analogique, ça ne pouvait pas tordre. Enfin, on regarde... Bon. Non, mais c'est très simple. Tout le charabia des ingénieurs du son qui explique... D'ailleurs, Jacques serait là, il serait le premier à éclater de rire et à confirmer ce que je dis, mais tout ce charabia des producteurs, des réalisateurs... D'abord... J'ai eu la chance de travailler, enfin de tout de suite, quand on parlait de la mort d'Orion, avec Bernard Estardi, qui n'est plus là, mais qui était un ingénieur absolument prodigieux, et qui avait été un autodidacte, il était électronicien, mais il avait tout découvert tout seul, un Neumann au bon endroit, un bon piano, voilà, on sait ce qu'on fait, pas de hors-phase, et puis c'est tout. Et puis le reste, ben après, ben, c'est le talent du titre, c'est le talent de la voix, c'est l'interprétation, c'est le fait, le phrasé, là, voilà.
Il parlait aussi d'enregistrer en live.
Oui, mais en live, ça veut dire que tous les musiciens sont dans le studio. Oui,
mais c'est pas si courant aujourd'hui.
Oui, mais enfin, malheureusement, à l'âge que j'ai, ça l'était. Tous les trucs des années 70, on n'enregistrait pas autrement. Le premier album où j'ai vendu beaucoup, là où il y avait le solitaire, qui s'appelait Il y a une route, je me souviens, on a fait tout l'album en une journée, on a fini à 11h du soir, on a fait 9 titres, avec un guitariste extraordinaire, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui est aux États-Unis, un Anglais, David Woolsey, je l'ai salué toute ma vie. Non, j'ai quand même eu la chance, encore une fois, étant seul au niveau des responsabilités, d'avoir des musiciens exceptionnels. Là, on entendait revivre, c'était un pianiste qui s'appelait Vic Emerson, qui n'est plus là. Mais quelle merveille! Et puis là, sur le dernier album, j'ai un jeune guitariste qui a pris la relève, qui s'appelle Mornay, qui est exceptionnel, excellent. Il était déjà sur le précédent, hein. Marilou, c'était lui et d'autres trucs. Mais oui, alors ces gens-là, j'ai pas besoin d'expliquer. Ces 3-4, on compte. Moi, je suis musicien moi-même. Je sais pas, ils comprennent tout de suite ce feeling, ce machin. Ils suivent le truc tout de suite. On fait pas 15 prises, on en fait 2,5, on en fait une.
En revanche, vous expliquez les chansons, manifestement les titres, parce que Jacques ne les comprend pas véritablement dès le départ.
Ben, je n'explique rien.
D'accord, il comprend tout seul.
Non, il y en a des plus ou moins. Celle-là, je veux bien croire que... toujours elle, là, elle est complètement impigeable, mais je l'ai rendue quand même à peu près codée, machin.
Quand bien même, ce n'est pas grave qu'elle soit impigeable.
Ça n'est absolument pas grave.
Côté.
Voici de la musique douce.
Club.
Côté club, sur France Inter.
Un peu de musique.
On repart dans ce nouvel album, L'Algue Bleue, avec ce titre, Sur la Lune, on danse. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'apparition de ce titre?
J'avais ce premier quatrain sur la Lune, on danse, et très loin la Terre, et puis surtout j'avais, c'est au fond d'un cratère que je l'ai rencontré, bon de l'épidoptère. Je me voyais comme quelquefois je me vois danser au ralenti, puisque là... des bons exceptionnels, et puis croiser cette fille, celle qui est d'ailleurs sur la pochette, là, sur le visuel.
La divinité lunaire.
Oui. Donc, j'ai très souvent écrit des choses, puisque j'écris aussi beaucoup de récits, de textes, enfin de littérature, on peut dire, mais... et de poésie d'ailleurs, il y a très souvent des choses comme ça à l'extérieur de notre stratosphère à nous, dans les nuées, dans le passé. Alors en tout cas, voilà, j'avais ces quatrains que j'ai gardés longtemps. Je n'ai jamais voulu, j'ai aussi cette particularité par rapport à des tas d'auteurs-compositeurs qui cherchent, qui veulent finir, qui cherchent des rimes, qui ouvrent des dictionnaires, enfin tout ça est absolument abêtissant. Non, moi jamais, j'ai toujours attendu, j'ai beaucoup d'inspiration, merci mon Dieu, mais j'attends que les choses s'enchaînent. Quelquefois, il y a un trou, ça peut arriver. Alors là, il y avait un trou, j'avais un 4,5, puis voilà, c'est tout, je l'ai laissé comme ça. Et puis petit à petit, j'attendais. Et là, j'ai eu une sorte de sample que j'ai remonté à la surface. Et puis des sortes de rythmiques, des trucs. Je me suis dit, non, quand même, un jour, là, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Là, sur la Lune, on danse. Ce titre est trop planant. Et alors, voilà. Alors, merci, encore une fois, ce guitariste. Parce qu'évidemment, si ça tourne, il y a ça aussi. Je sais ce que je veux, mais je ne vais pas le faire tout seul. Je ne joue pas de la Stratocaster comme ça.
Entouré de mystères.
Sur la lune on danse, voyez-vous le soir, et très loin la terre, de grands arrosoirs aux formes évasées dans le rose du soir. Et au bord d'un cratère que je l'ai rencontré, et nous avons dansé.
Sur la lune, on danse. Très beau titre de ce nouvel album de Gérard Manset, L'Algue Bleue. Vous êtes impressionné, manifestement.
Oui. Ah oui, là, je devrais faire de la scène, ça, évidemment. Il faut que j'arrive à me convaincre. Non, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être qu'il y a que moi qui plane. Enfin, je pense pas. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que je viens de sortir un clip, là, où il y a Méliès, qui est assez impressionnant. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir cet hommage à Méliès.
Vous avez arrêté de dessiner pendant que vous écoutez la chanson ?
Ben oui, parce que je m'entends dans des conditions autres. Fini, des mois après, pas en studio, on ne peut rien changer, on ne peut pas intervenir. Et j'entends quelque chose qui me transporte. Je me dis, c'est une des choses qui m'a maintenu dans cet état d'esprit musical, mais pas que musical. Peut-être qui ramène ou qui relève de mes années entre guillemets bouddhistes, tout au moins méditatives, c'est que faire du bien aux gens, j'ai l'impression que ça fait du bien aux gens, ça. D'entendre ça, c'est un rêve, quoi, c'est un rêve éveillé. Et c'est pas du toc, c'est pas un rêve en toc, comme tout ce qu'on nous vend depuis longtemps, là. Il y a peu de gens qui ont... Moi, j'ai Ronsard, quand je lis Ronsard, c'est pas du toc. Il y a peu de gens qui donnent du bonheur qui ne soit pas du toc.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, Gérard Manset. Merci. On se quitte avec Marion Rampal qui invite Bertrand Belin sur son album Moiselle. De beaux dimanches en perspective sur France Inter.
Ses bas gris dans ses eaux bleues, m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fait, presque à ton bras, deux pas pour le bal, trois sur le côté, passer lentement, sous le ciel qui chante. Je sais habiller sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, en nous ça tourne à travers. Joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle, ça n'était qu'un doux rêve sans faire de beau dimanche.
Suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
Eh bien, côté club, c'est fini pour ce soir. Gérard Manset, merci à vous. Le nouvel album, le 24e, c'est L'Algue Bleue. Il sortira le 26 avril prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Demain, ce sera 100% électro, côté clubbing avec Listen et le mix de Dr. Flake. Je remercie toute l'équipe de Côté Club, Mathias Volant à la réalisation, à la technique ce soir, Guillaume Roux, Marion Guilbeault, Tara Natouri, Virginie Rouzic, Alexis Goyer signe la programmation. Et aux playlists ce soir, Valentine Chedebois et vous, Gérard Manset, merci. Côté Club, on ferme, je vous souhaite la bonne fin de soirée, alors à demain.
Oh, c'était formidable.
La musique, elle est jamais triste.
Oui.
Elle existe.
Yes.
Ou elle n'est pas.
Bye.